Jacques le fataliste et son maître. Partie 5. Ici, le maître dit à Jacques: « Ta fable n'est pas trop morale, mais elle est gaie. Tu ne sais pas la singulière idée qui me passe par la tête? Je te marie avec notre hôtesse, et je cherche comment un mari aurait fait, lorsqu'il aime à parler, avec une femme qui ne déparle pas. Comme j'ai fait les 12 premières années de ma vie, que j'ai passé chez mon grand-père et ma grand-mère. Comment s'appelaient-ils? Quelle était leur profession? Ils étaient brocanteurs. Mon grand-père Jason eut plusieurs enfants. Toute la famille était sérieuse. Ils se levaient, ils s'habillaient, ils allaient à leurs affaires. Ils revenaient, ils dînaient, ils retournaient sans avoir dit un mot. Le soir, ils se jetaient sur des chaises. La mère et les filles filaient, cousaient, tricotaient sans mot dire. Les garçons se reposaient. Le père lisait l'Ancien Testament. « Et toi, que faisais-tu ? » « Je courais dans la chambre avec un bâillon. »« Avec un bâillon ?»« Oui, avec un bâillon. Et c'est à ce maudit bâillon que je dois la rage de parler. » La semaine se passait quelquefois sans qu'on eût ouvert la bouche dans la maison des Jasons. Pendant toute sa vie, qui fut longue, ma grand-mère n'avait dit que chapeau à vendre et mon grand-père, qu'on voyait dans les inventaires, droit, les mains sous sa redingote, n'avait dit qu'un sou. Il y avait des jours où il était tenté de ne pas croire à la Bible. Et pourquoi? À cause des redites, qu'il regardait comme un bavardage indigne de l'Esprit-Saint. Il disait que les rediseurs sont des sots qui prennent ceux qui les écoutent pour des sots. Jacques, si pour te dédommager du long silence que tu as gardé pendant les 12 années du bâillon chez ton grand-père et pendant que l'hôtesse a parlé, je reprenais l'histoire de mes amours? Non, mais une autre sur laquelle tu m'as laissé, celle du camarade de ton capitaine. Oh, mon maître, la cruelle mémoire que vous avez! Mon Jacques, mon petit Jacques, de quoi riez-vous? De ce qui me fera rire plus d'une fois, c'est de te voir dans ta jeunesse chez ton grand-père avec le bâillon. Ma grand-mère me l'ôtait lorsqu'il n'y avait plus personne. Et lorsque mon grand-père s'en apercevait, il n'en était pas plus content. Il lui disait « Continuez, cet enfant sera le plus effréné bavard qui ait encore existé. » Sa prédiction s'est accomplie. « Allons, mon Jacques, mon petit Jacques, l'histoire du camarade de ton capitaine. Je ne m'y refuserai pas, mais vous ne la croirez point. Elle est donc bien merveilleuse. » Non, c'est qu'elle est déjà arrivée à un autre, à un militaire français appelé, je crois, Monsieur de Guerchy. Eh bien, je dirais comme un poète français qui avait fait une assez bonne épigramme, disait à quelqu'un qui se l'attribuait en sa présence « Pourquoi monsieur ne l'aurait-il pas faite? Je l'ai bien faite, moi. Pourquoi l'histoire de Jacques ne serait-elle pas arrivée aux camarades de son capitaine, puisqu'elle est bien arrivée aux militaires français de Guerchy? Mais en me la racontant, tu feras d'une pierre deux coups, tu m'apprendras l'aventure de ces deux personnages, car je l'ignore. Tant mieux! Mais jurez-le-moi. Je te le jure. Lecteur, je serais bien tenté d'exiger de vous le même serment. Mais je vous ferai seulement remarquer dans le caractère de Jacques une bizarrerie qu'il tenait apparemment de son grand-père Jason, le brocanteur silencieux. C'est que Jacques, au rebours des bavards, quoiqu'il aimât beaucoup à dire, avait en aversion les redites. Aussi disait-il quelquefois à son maître « Monsieur me prépare le plus triste avenir. Que deviendrai-je quand je n'aurai plus rien à dire ?»« Tu recommenceras. » »« Recommencer ? » ?»« Le contraire est écrit là-haut. Et s'il m'arrivait de recommencer, je ne pourrais m'empêcher de m'écrier « Ah, si ton grand-père t'entendait !» Et je regretterais le bâillon. »« Tu veux dire celui qu'il te mettait ?» Dans le temps qu'on jouait au jeu de hasard aux foires de Saint-Germain et de Saint-Laurent, mais c'est à Paris, et le camarade de ton capitaine était commandant d'une place frontière. Pour Dieu, monsieur, laissez-moi dire! Plusieurs officiers entrèrent dans une boutique et y trouvèrent un autre officier qui causait avec la maîtresse de la boutique. L'un d'eux proposa à celui-ci de jouer au passe-dix. Mais il faut que vous sachiez qu'après la mort de mon capitaine, son camarade, devenu riche, était aussi devenu joueur. Lui donc, ou monsieur de Guerchy, accepte. Le sort met le cornet à la main de son adversaire qui passe, 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 que cela ne finissait point. Le jeu s'était échauffé et l'on avait joué le tout du tout, les petites moitiés, les grandes moitiés, le grand tout du tout, lorsqu'un des assistants s'avisa de dire à monsieur de Guerchy, ou aux camarades de mon capitaine, qu'il ferait bien de s'en tenir là et de cesser de jouer, parce qu'on n'en savait plus que lui. Sur ce propos qui n'était qu'une plaisanterie, le camarade de mon capitaine, ou monsieur de Guerchy, crut qu'il avait affaire à un filou. Il mit subtilement la main à sa poche, en tira un couteau bien pointu, et, lorsque son antagoniste porta la main sur les dés pour les placer dans le cornet, il lui plante le couteau dans la main et la lui cloue sur la table, en lui disant « Si les dés sont pipés, vous êtes un fripon. S'ils sont bons, j'ai tort. » Les dés se trouvèrent bons. Monsieur de Guerchy dit « J'en suis très fâché, et j'offre telle réparation qu'on voudra. » Ce ne fut pas le propos du camarade de mon capitaine. Il dit « J'ai perdu mon argent, j'ai percé la main à un galant homme, mais en revanche, j'ai recouvré le plaisir de me battre tant qu'il me plaira. » L'officier cloué se retire et va se faire panser. Lorsqu'il est guéri, il vient trouver l'officier cloueur et lui demande raison. Celui-ci, ou monsieur de Guerchy, trouve la demande juste. L'autre, le camarade de mon capitaine, jette les bras à son cou et lui dit « Je vous attendais avec une impatience que je ne saurais vous exprimer. » Ils vont sur le pré, le cloueur, monsieur de Guerchy, ou le camarade de mon capitaine, reçoit un bon coup d'épée à travers le corps. Le cloué le relève, le fait porter chez lui et lui dit « Monsieur, nous nous reverrons. » Monsieur de Guerchy ne répondit rien. Le camarade de mon capitaine lui répondit « Monsieur, j'y compte bien. » Ils se battent une seconde, une troisième, jusqu'à 8 ou 10 fois, et toujours le cloueur reste sur place. C'étaient tous les deux des officiers de distinction, tous les deux gens de mérite. Leur aventure fit grand bruit. Le ministère s'en mêla. L'on retint l'un à Paris et l'on fixa l'autre à son poste. Monsieur de Guerchy se soumit aux ordres de la cour. Le camarade de mon capitaine en fut désolé. Et telle est la différence entre deux hommes braves par caractère, mais dont l'un est sage et l'autre a un grain de folie. Jusqu'ici, l'aventure de monsieur de Guerchy et du camarade de mon capitaine leur est commune, c'est la même. Et voilà la raison pour laquelle je les ai nommés tous deux. Entendez-vous, mon maître? Ici, je vais les séparer et je ne vous parlerai plus que du camarade de mon capitaine parce que le reste n'appartient qu'à lui. Ah, monsieur, c'est ici que vous allez voir combien nous sommes peu maîtres de nos destinées et combien il y a de choses bizarres écrites sur le grand rouleau. » Le camarade de mon capitaine, ou le cloueur, sollicite la permission de faire un tour dans sa province. Il l'obtient. Sa route était par Paris. Il prend place dans une voiture publique. À 3 heures du matin, cette voiture passe devant l'opéra. On sortait du bal. 3 ou 4 jeunes étourdis masqués projettent d'aller déjeuner avec les voyageurs. On arrive au point du jour à la déjeuner. On se regarde. Qui fut bien étonné? Ce fut le cloué de reconnaître son cloueur. Celui-ci présente la main, l'embrasse et lui témoigne combien il est enchanté d'une si heureuse rencontre. À l'instant, ils passent derrière une grange, mettent l'épée à la main, l'un en redingote, l'autre en domino. Le cloueur ou le camarade de mon capitaine est encore jeté sur le carreau. Son adversaire envoie à son secours, se met à table avec ses amis et le reste de la carrossée, boit et mange gaiement. Les uns se disposaient à suivre leur route et les autres à retourner dans la capitale, en masque et sur des chevaux de poste, lorsque l'hôtesse reparut et mit fin au récit de Jacques. La voilà remontée et je vous préviens, lecteur, qu'il n'est plus en mon pouvoir de la renvoyer. Pourquoi donc? C'est qu'elle se présente avec 2 bouteilles de champagne, une dans chaque main, et qu'il est écrit là-haut que tout orateur qui s'adressera à Jacques avec cet exorde s'en fera nécessairement écouter. Elle entre, pose ses 2 bouteilles sur la table et dit « Allons, monsieur Jacques, Faisons la paix. » L'hôtesse n'était pas de la première jeunesse. C'était une femme grande et replète, ingambe, de bonne mine, pleine d'embonpoint, la bouche un peu grande mais de belles dents, des joues larges, des yeux à fleur de tête, le front carré, la plus belle peau, la physionomie ouverte, vive et gaie, les bras un peu forts, mais les mains superbes, des mains à peindre ou à modeler. Jacques la prit par le milieu du corps et l'embrassa fortement. Sa rancune n'avait jamais tenu contre du bon vin et une belle femme. Cela était écrit là-haut de lui, de vous, lecteurs, de moi et de beaucoup d'autres. « Monsieur, dit-elle au maître, est-ce que vous nous laisserez aller tout seul ? Voyez, eussiez-vous encore 100 lieues à faire, vous n'en boirez pas de meilleure de toute la route. » En parlant ainsi, elle avait placé une des 2 bouteilles entre ses genoux et elle en tirait le bouchon. Ce fut avec une adresse singulière qu'elle en couvrit le goulot avec le pouce sans laisser échapper une goutte de vin. « Allons, dit-elle à Jacques. Vite, vite, votre verre !» Jacques approche son verre. L'hôtesse, en écartant son pouce un peu de côté, donne vent à la bouteille. Et voilà le visage de Jacques tout couvert de mousse. Jacques s'était prêté à cette espièglerie et l'hôtesse de rire et Jacques et son maître de rire. On but quelques rasades les unes sur les autres pour s'assurer de la sagesse de la bouteille. Puis l'hôtesse dit « Dieu merci, ils sont tous dans leur lit, on ne m'interrompra plus, et je puis reprendre mon récit. » Jacques, en la regardant avec des yeux dont le vin de champagne avait augmenté la vivacité naturelle, lui dit, ou à son maître, « Notre hôtesse a été belle comme un ange. Qu'en pensez-vous, monsieur ?»«
A été, pardieu, Jacques, c'est qu'elle l'est encore !»«
Monsieur, vous avez raison. » C'est que je ne la compare pas à une autre femme, mais à elle-même quand elle était jeune. Je ne vaux pas grand-chose à présent. C'est lorsqu'on m'aurait prise entre les 2 premiers doigts de chaque main qu'il me fallait voir. On se détournait de 4 lieues pour séjourner ici. Mais laissons là les bonnes et les mauvaises têtes que j'ai tournées, et revenons à Madame de la Pommeraye. Si nous buvions d'abord un coup aux mauvaises têtes que vous avez tournées, ou à ma santé, très volontiers. Il y en avait qui en valaient la peine, en comptant ou sans compter la vôtre. Savez-vous que j'ai été pendant 10 ans la ressource des militaires, en tout bien tout honneur? J'en ai obligé nombre qui auraient eu bien de la peine à faire leur campagne sans moi. Ce sont de braves gens, je n'ai à me plaindre d'aucun, ni eux de moi. Jamais de billets, ils m'ont fait quelquefois attendre. Au bout de 2, de 3, de 4 ans, mon argent m'est revenu. Et puis la voilà qui se met à faire l'énumération des officiers qui lui avaient fait l'honneur de puiser dans sa bourse et monsieur un tel, colonel du régiment de, et monsieur un tel, capitaine au régiment de. Et voilà Jacques qui se met à faire un cri. « Mon capitaine, mon pauvre capitaine, vous l'avez connu ? Si je l'ai connu, un grand homme bien fait, un peu sec, l'air noble et sévère, le jarret bien tendu, 2 petits points rouges à la tempe droite. Vous avez donc servi ?
Si j'ai servi,
je vous en aime davantage. Il doit vous rester de bonne qualité de votre premier état. Buvons à la santé de votre capitaine.
S'il est encore vivant.
Mort ou vivant, qu'est-ce que cela fait ? Est-ce qu'un militaire n'est pas fait pour être tué ? Est-ce qu'il ne doit pas être enragé, après 10 sièges et 5 ou 6 batailles, de mourir au milieu de cette canaille de gens noirs ? Mais revenons à notre histoire et buvons encore un coup.
« Ma foi, notre hôtesse, vous avez raison. »«
Je suis bien aise que vous pensiez ainsi. »«
Car votre vin est excellent. »«
Ah, c'est de mon vin que vous parliez. Eh bien, vous avez encore raison. Vous rappelez-vous, nous en étions ?»«
Oui, à la conclusion de la plus perfide des confidences. »
Monsieur le marquis des Arcis et Madame de la Pommeraye s'embrassèrent, enchantés l'un de l'autre, et se séparèrent. Plus la dame s'était contrainte en sa présence, plus la douleur fut violente quand il fut parti. « Il n'est donc que trop vrai, s'écria-t-elle, il ne m'aime plus. Je ne vous ferai point le détail de toutes nos extravagances quand on nous délaisse. Vous en seriez trop vain. Je vous ai dit que cette femme avait de la fierté, mais elle était bien autrement vindicative. Lorsque les premières fureurs furent calmées, et qu'elle jouit de toute la tranquillité de son indignation, elle songea à se venger, mais à se venger d'une manière cruelle, d'une manière à effrayer tous ceux qui seraient tentés à l'avenir de séduire et de tromper une honnête femme. Elle s'est vengée, elle s'est cruellement vengée. Sa vengeance a éclaté et n'a corrigé personne. Nous n'en avons pas été depuis moins vilainement séduites et trompées.
Bon pour les autres, mais vous?
Hélas, moi toute la première. Oh, que nous sommes sottes! Encore, si ces vilains hommes gagnaient au change. Mais laissons cela. Que fera-t-elle? Elle n'en sait rien encore. Elle y rêvera. Elle y rêve.
Si t'en dis qu'elle y rêve.
C'est bien dit. Mais nos deux bouteilles sont vides. Jean?
Madame?
Deux bouteilles, de celles qui sont tout au fond, derrière les fagots.
J'entends.
À force d'y rêver, voici ce qui lui vint en idée. Madame de la Pommeraye avait autrefois connu une femme de province qu'un procès avait appelée à Paris, avec sa fille, jeune, belle et bien élevée. Elle avait appris que cette femme, ruinée par la perte de son procès, en avait été réduite à tenir tripot. On s'assemblait chez elle, on jouait, on soupait, et communément un ou deux des convives restaient, passaient la nuit avec madame ou mademoiselle à leur choix. Elle mit un de ses gens en quête de ces créatures. On les déterra, on les invita à faire visite à madame de la Pommeraye, qu'elle se rappelait à peine. Ces femmes, qui avaient pris le nom de madame et mademoiselle des noms, ne se firent pas attendre. Dès le lendemain, la mère se rendit chez madame de la Pommeraye. Après les premiers compliments, madame de la Pommeraye demanda à la Desnon ce qu'elle avait fait, ce qu'elle faisait depuis la perte de son procès. « Pour vous parler avec sincérité, lui répondit la Desnon, je fais un métier périlleux, infâme, peu lucratif et qui me déplaît, mais la nécessité contraint la loi. J'étais presque résolue à mettre ma fille à l'opéra, mais elle n'a qu'une petite voix de chambre et n'a jamais été qu'une danseuse médiocre. Je l'ai promenée pendant et après mon procès, chez des magistrats, chez des grands, chez des prélats, chez des financiers qui s'en sont accommodés pour un terme et qui l'ont laissée là. Ce n'est pas qu'elle ne soit belle comme un ange, qu'elle n'ait de la finesse, de la grâce, mais aucun esprit de libertinage, rien de ses talents propres à réveiller la langueur d'homme blasé. Je donne à jouer et à souper. Et le soir, qui veut rester, reste. Mais ce qui nous a le plus nui, c'est qu'elle s'était entêtée d'un petit abbé de qualité, impie, incrédule, dissolu, hypocrite, antiphilosophe, que je ne vous nommerai pas. Mais c'est le dernier de ceux qui, pour arriver à l'épiscopat, ont pris la route qui est en même temps la plus sûre et qui demande le moins de talent. Je ne sais ce qu'il faisait entendre à ma fille, à qui il venait lire tous les matins les feuillets de son dîner, de son souper, de sa rhapsodie. Sera-t-il évêque? Ne le sera-t-il pas? Heureusement, ils se sont brouillés. Ma fille lui ayant demandé un jour s'il connaissait ceux contre lesquels il écrivait, et l'abbé lui ayant répondu que non. S'il avait d'autres sentiments que ceux qu'il ridiculisait, et l'abbé lui ayant répondu que non, elle se laissa emporter à sa vivacité et lui représenta que son rôle était celui du plus méchant et du plus faux des hommes. Madame de la Pommeraye lui demanda si elles étaient fort connues. « Beaucoup trop, malheureusement. À ce que je vois, vous ne tenez point à votre état. Aucunement, et ma fille me proteste tous les jours que la condition la plus malheureuse lui paraît préférable à la sienne. Elle en est d'une mélancolie qui achève d'éloigner d'elle. Si je me mettais en tête de vous faire à l'une et à l'autre le sort plus brillant, vous y consentiriez donc ?
Ah bien moins. Mais il s'agit de savoir si vous pouvez me promettre de vous conformer à la rigueur des conseils que je vous donnerai.
Quel qu'il soit, vous pouvez y compter. Et vous serez à mes ordres quand il me plaira. Nous les attendrons avec impatience. Cela me suffit. Retournez-vous-en. Vous ne tarderez pas à les recevoir. En attendant, défaites-vous de vos meubles, vendez tout, ne réservez pas même vos robes, si vous en avez de voyantes. Cela ne cadrerait point à mes vues.
Jacques, qui commençait à s'intéresser, dit à l'hôtesse
« Et si nous buvions à la santé de madame de la Pommeraye ?»«
Volontiers. »«
Et à celle de madame Desnon ?»«
Top !»«
Et vous ne refuserez pas celle de mademoiselle Desnon qui a une jolie voix de chambre, peu de talent pour la danse et une mélancolie qui l'a réduite à la triste nécessité d'accepter un nouvel amant tous les soirs. »
Ne riez pas, c'est la plus cruelle chose, si vous saviez le supplice quand on n'aime pas. À mademoiselle Desnoms, à cause de son supplice. Allons. Notre hôtesse, aimez-vous votre mari? Pas autrement. Vous êtes donc bien à plaindre, car il me semble d'une belle santé. Tout ce qui reluit n'est pas or. À la belle santé de notre hôte. Buvez tout seul.
Jacques, Jacques, mon ami, tu te presses beaucoup.
Ne craignez rien, monsieur. Il est loyal, et demain, il n'y paraîtra pas. Puisqu'il n'y paraîtra pas demain et que je ne fais pas ce soir grand cas de ma raison, mon maître, ma belle hôtesse, encore une santé qui me tient fort à cœur, c'est celle de l'abbé de mademoiselle Desnoms.
Fi donc, monsieur Jacques, un hypocrite, un ambitieux, un ignorant, un calomniateur, un intolérant, car c'est comme cela qu'on appelle, je le crois, ceux qui égorgeraient volontiers quiconque ne pense pas comme eux.
C'est que vous ne savez pas, notre hôtesse, que Jacques que voilà est une espèce de philosophe et qu'il fait un cas infini de ces petits imbéciles qui se déshonorent eux-mêmes et la cause qu'ils défendent si mal. Il dit que son capitaine les appelait le contrepoison des Huets, des Nicoles, des Bossuets. Ils n'entendaient rien à cela, ni vous non plus. Votre mari est-il couché?
Il y a belle heure.
Et il vous laisse causer comme cela?
Nos maris sont aguerris. Madame de la Pommeraye monte dans son carrosse, court les faubourgs les plus éloignés du quartier de la Desnoms, loue un petit appartement en maison honnête, dans le voisinage de la paroisse, le fait meubler le plus succinctement qu'il est possible, invite la Desnoms et sa fille à dîner, et les installe, ou le jour même, ou quelques jours après, leur laissant un précis de la conduite qu'elles ont à tenir. Notre hôtesse, nous avons oublié la santé de madame de la Pommeraye, celle du marquis des Arcis. Ah, cela n'est pas honnête. Allez, allez, monsieur Jacques, la cave n'est pas vide. Voici ce précis ou ce que j'en ai retenu. Vous ne fréquenterez point les promenades publiques, car il ne faut pas qu'on vous découvre. Vous ne recevrez personne, pas même vos voisins et vos voisines, parce qu'il faut que vous affectiez la plus profonde retraite. Vous prendrez dès demain l'habit de dévote parce qu'il faut qu'on vous croie telle. Vous n'aurez chez vous que des livres de dévotion parce qu'il ne faut rien autour de vous qui puisse vous trahir. Vous serez de la plus grande assiduité aux offices de la paroisse, jour de fête et jour ouvrable. Vous vous intriguerez pour avoir entré au parloir de quelque couvent. Le bavardage de ces recluses ne nous sera pas inutile. Vous ferez connaissance étroite avec le curé et les prêtres de la paroisse, parce que je puis avoir besoin de leurs témoignages. Vous n'en recevrez d'habitude aucun. Vous irez à confesse et vous approcherez des sacrements au moins 2 fois le mois. Vous reprendrez votre nom de famille, parce qu'il est honnête, et qu'on fera tôt ou tard des informations dans votre province. Vous ferez de temps en temps quelques petites aumônes, et vous n'en recevrez point sous quelque prétexte que ce puisse être. Il faut qu'on ne vous croie ni pauvre ni riche. Vous filerez, vous coudrez, vous tricoterez, vous broderez, et vous donnerez aux dames de charité votre ouvrage à vendre. Vous vivrez de la plus grande sobriété, 2 petites portions d'auberge, et puis c'est tout. Votre fille ne sortira jamais sans vous, ni vous sans elle. De tous les moyens d'édifier à peu de frais, vous n'en négligerez aucun. Surtout, jamais chez vous, je vous le répète, ni prêtre, ni moine, ni dévote. Vous irez dans les rues les yeux baissés. À l'église, vous ne verrez que Dieu. J'en conviens, cette vie est austère, mais elle ne durera pas, et je vous en promets la plus signale récompense. Voyez, consultez-vous. Si cette contrainte vous paraît au-dessus de vos forces, avouez-le-moi, je n'en serai ni offensée ni surprise. J'oubliais de vous dire qu'il serait à propos que vous vous fissiez un verbiage de la mysticité et que l'histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament vous devint familière, afin qu'on vous prenne pour des dévotes d'ancienne date. Faites-vous janséniste ou moliniste comme il vous plaira, mais le mieux sera d'avoir l'opinion de votre curé. Ne manquez pas, à tort et à travers, dans toute occasion, de vous déchaîner contre les philosophes. Criez que Voltaire est l'Antéchrist. Sachez par cœur l'ouvrage de votre petit abbé et colportez-le s'il le faut. Madame de la Pommeraye ajouta,
Je ne vous verrai point chez vous. Je ne suis pas digne du commerce d'aussi sainte femme. Mais n'en ayez aucune inquiétude. Vous viendrez ici clandestinement quelquefois, et nous nous dédommagerons en petit comité de votre régime pénitent. Mais, tout en jouant la dévotion, n'allez pas vous en empêtrer. Quant aux dépenses de votre petit ménage, c'est mon affaire. Si mon projet réussit, vous n'aurez plus besoin de moi. S'il manque sans qu'il y ait de votre faute, je suis assez riche pour vous assurer un sort honnête et meilleur que l'état que vous m'aurez sacrifié. Mais surtout, soumission. Soumission absolue, illimitée à mes volontés, sans quoi je ne réponds de rien pour le présent et je ne m'engage à rien pour l'avenir.
Le maître, en frappant sur sa tabatière et regardant à sa montre l'heure qu'il est, « Voilà une terrible tête de femme. Dieu me garde d'en rencontrer une pareille. »«
Patience, patience, vous ne la connaissez pas encore. »«
En attendant, ma belle, notre charmante hôtesse, si nous disions un mot à la bouteille. »«
Monsieur Jacques, mon vin de champagne m'embellit à vos yeux. »
« Je suis pressé depuis si longtemps de vous faire une question, peut-être indiscrète, que je n'y saurais plus tenir. »«
Faites votre question. »«
Je suis sûr que vous n'êtes pas née dans une hôtellerie. »«
Il est vrai. »«
Que vous y avez été conduite d'un état plus élevé par des circonstances extraordinaires. »«
J'en conviens. »«
Et si nous suspendions un moment l'histoire de Madame de la Pommeraye ?»«
Cela ne se peut. » Je raconte volontiers les aventures des autres, mais non pas les miennes. Sachez seulement que j'ai été élevée à Saint-Cyr, où j'ai peu lu l'Évangile et beaucoup de romans. De l'abbaye royale à l'auberge que je tiens, il y a loin.
Il suffit. Prenez que je ne vous ai rien dit.
Tandis que nos deux dévotes édifiaient, et que la bonne odeur de leur piété, de la sainteté de leurs mœurs se répandait à la ronde, Madame de la Pommeraye observait avec le marquis les démonstrations extérieures de l'estime, de l'amitié, de la confiance la plus parfaite. Toujours bienvenue, jamais ni grondée, ni boudée, même après de longues absences. Il lui racontait toutes ses petites bonnes fortunes, et elle paraissait s'en amuser franchement. Elle lui donnait ses conseils dans les occasions d'un succès difficile. Elle lui jetait quelquefois des mots de mariage, mais c'était d'un ton si désintéressé qu'on ne pouvait la soupçonner de parler pour elle. Si le marquis lui adressait quelques-uns de ces propos tendres ou galants dont on ne peut guère se dispenser avec une femme qu'on a connue, ou elle en souriait, ou elle les laissait tomber. À l'en croire, son cœur était paisible, et ce qu'elle n'aurait jamais imaginé, elle éprouvait qu'un ami tel que lui suffisait au bonheur de la vie. Et puis, elle n'était plus de la première jeunesse, et ses goûts étaient bien émoussés. « Quoi ? Vous n'avez rien à me confier ?»«
Non. »«
Mais le petit comte, mon ami, qui vous pressait si vivement de mon règne, je lui ai fermé ma porte et je ne le vois plus. »«
C'est d'une bizarrerie, et pourquoi l'avoir éloigné ?»«
C'est qu'il ne me plaît pas. »«
Ah, madame, je crois vous deviner, vous m'aimez encore. Cela se peut. »
Vous comptez sur un retour.
Pourquoi non ?
Et vous vous ménagez tous les avantages d'une conduite sans reproche.
Je le crois.
Et si j'avais le bonheur ou le malheur de reprendre, vous vous feriez au moins un mérite du silence que vous garderiez sur mes torts.
Vous me croyez bien délicate et bien généreuse.
Mon ami, après ce que vous avez fait, il n'est aucune sorte d'héroïsme dont vous ne soyez capable.
Je ne suis pas trop fâchée que vous le pensiez.
Ma foi, je cours le plus grand danger avec vous, j'en suis sûre.
Et moi aussi.
Il y avait environ 3 mois qu'ils en étaient au même point, lorsque Madame de la Pommeraye crut qu'il était temps de mettre en jeu ses grands ressorts. Un jour d'été, qu'il faisait beau et qu'elle attendait le marquis à dîner, elle fit dire à la Dénon et à sa fille de se rendre au jardin du roi. Le marquis vint, on servit de bonne heure, on dîna gaiement. Après dîner, Madame de la Pommeraye propose une promenade au marquis, s'il n'avait rien de plus agréable à faire. Il n'y avait ce jour-là ni opéra, ni comédie. Ce fut le marquis qui en fit la remarque. Et pour se dédommager d'un spectacle amusant par un spectacle utile, le hasard voulut que ce fût lui-même qui invita la marquise à aller voir le cabinet du roi. Il ne fut pas refusé, comme vous pensez bien. Voilà les chevaux mis, les voilà partis. Les voilà arrivés au jardin du roi, et les voilà mêlés dans la foule, regardant tout et ne voyant rien comme les autres.
Lecteur, j'avais oublié de vous peindre le site des trois personnages dont il s'agit ici. Jacques, son maître et l'hôtesse. Faute de cette attention, vous les avez entendus parler, mais vous ne les avez point vus. Il vaut mieux tard que jamais. Le maître à gauche, en bonnet de nuit, en robe de chambre, était étalé nonchalamment dans un grand fauteuil de tapisserie, son mouchoir jeté sur le bras du fauteuil et sa tabatière à la main. L'hôtesse, sur le fond, en face de la porte, proche de la table, son verre devant elle. Jacques, sans chapeau, à sa droite, les deux coudes appuyés sur la table et la tête penchée entre deux bouteilles. Deux autres étaient à terre, à côté de lui. Au sortir du cabinet, le marquis et sa bonne amie se promenèrent dans le jardin. Ils suivaient la première allée qui est à droite en entrant, proche l'école des arbres, lorsque madame de la Pommeraye fit un cri de surprise en disant « Je ne me trompe pas, je crois que ce sont elles. Oui, ce sont elles-mêmes. » Aussitôt on quitte le marquis et l'on s'avance à la rencontre de nos deux dévotes. La dénonfille était à ravir sous ce vêtement simple qui, n'attirant point le regard, fixe l'attention tout entière sur la personne. « Ah, c'est vous, madame ?»« Oui, c'est moi. »« Et comment vous portez-vous et qu'êtes-vous devenue depuis une éternité ?»« Vous savez nos malheurs, il a fallu s'y résigner et vivre retiré comme il convenait à notre petite fortune, sortir du monde quand on ne peut plus s'y montrer décemment. » Mais moi, me délaisser, et qui est toujours de bon esprit de le trouver aussi maussade qu'il est. Un des inconvénients de l'infortune, c'est la méfiance qu'elle inspire. Les indigents craignent d'être importuns. Vous, importune pour moi! Ce soupçon est une bonne injure. Madame, j'en suis tout à fait innocente. Je vous ai rappelé 10 fois à maman, mais elle me disait, madame de la Pommeraye, personne, ma fille, ne pense plus à nous. « Quelle injustice ! Asseyons-nous, nous causerons. Voilà monsieur le marquis des Arcis, c'est mon ami, et sa présence ne nous gênera pas. Comme mademoiselle est grandie, comme elle est embellie depuis que nous ne nous sommes vus. Notre position a cela d'avantageux qu'elle nous prive de tout ce qui nuit à la santé. Voyez son visage, voyez ses bras. Voilà ce qu'on doit à la vie frugale et réglée, au sommeil, au travail, à la bonne conscience. Et c'est quelque chose. On s'assit, on s'entretint d'amitié. La dénon-mère parla bien, la dénon-fille parla peu. Le ton de la dévotion fut celui de l'une et de l'autre, mais avec aisance et sans pruderie. Longtemps avant la chute du jour, nos deux dévotes se levèrent. On leur représenta qu'il était encore de bonne heure. La dénon-mère dit assez haut, à l'oreille de madame de la Pommeraye, qu'elles avaient encore un exercice de piété à remplir et qu'il leur était impossible de rester plus longtemps. Elles étaient déjà à quelque distance lorsque madame de la Pommeraye se reprocha de ne leur avoir pas demandé leur demeure et de ne pas leur avoir appris la sienne. « C'est une faute, ajouta-t-elle, que je n'aurais pas commise autrefois. » Le marquis courut pour la réparer. Elles acceptèrent l'adresse de madame de la Pommeraye, mais quelles que furent les instances du marquis, il ne put obtenir la leur. Il n'osa pas leur offrir sa voiture, en avouant à madame de la Pommeraye qu'il en avait été tenté. Le marquis ne manqua pas de demander à madame de la Pommeraye ce que c'était que ces deux femmes. « Ce sont des créatures plus heureuses que nous. Voyez la belle santé dont elles jouissent, la sérénité qui règne sur leurs visages, l'innocence, la décence qui dicte leurs propos. On ne voit point cela, on n'entend point cela dans nos cercles. Nous plaignons les dévots nous plaignent, et à tout prendre, je penche à croire qu'ils ont raison. Mais marquise, est-ce que vous seriez tentée de devenir dévote? Pourquoi pas? Prenez-y garde, je ne voudrais pas que notre rupture, si c'en est une, vous menât jusque-là. Et vous aimeriez mieux que je rouvrisse ma porte au petit comte? Beaucoup mieux. Et vous me le conseilleriez? Sans balancer. Madame de la Pommeraye dit au marquis ce qu'elle savait du nom, de la province, du premier état et du procès des deux dévotes, y mettant tout l'intérêt et tout le pathétique possible. Puis elle ajouta. Ce sont deux femmes d'un mérite rare, la fille surtout. Vous concevez qu'avec une figure comme la sienne, on ne manque de rien ici quand on veut en faire ressource.
mais elles ont préféré une honnête modicité à une aisance honteuse. Ce qu'il leur reste est si mince qu'en vérité je ne sais comment elles font pour subsister. Cela travaille nuit et jour. Supporter l'indigence quand on y est né, c'est ce qu'une multitude d'hommes savent faire, mais passer de l'opulence au plus étroit nécessaire, s'en contenter, y trouver la félicité, c'est ce que je ne comprends pas. Voilà à quoi sert la religion. Nos philosophes auront beau dire, la religion est une bonne chose, surtout pour les malheureux. Et qui est-ce qui ne l'est pas plus ou moins ? C'est que nos opinions religieuses ont peu d'influence sur nos mœurs, mais, mon ami, je vous jure que vous vous acheminez à toutes jambes au confessionnal. C'est bien ce que je pourrais faire de mieux. Allez, vous êtes folle, vous avez encore une vingtaine d'années de jolis péchés à faire, n'y manquez pas. Ensuite, vous vous en repentirez et vous irez vous en vanter au pied du prêtre, si cela vous convient. Mais voilà une conversation d'un tour bien sérieux. Votre imagination se noircit furieusement et c'est l'effet de cette abominable solitude où vous vous êtes renfoncé. Croyez-moi, rappelez au plus tôt le petit conte. Vous ne verrez plus ni diable ni enfer et vous serez charmante comme auparavant. Vous craignez que je vous le reproche si nous nous raccommodons jamais? Mais d'abord, nous ne nous raccommoderons peut-être pas et par une appréhension bien ou mal fondée, vous vous privez du plaisir le plus doux et, en vérité, l'honneur de valoir mieux que moi ne vaut pas ce sacrifice. Vous dites bien vrai. Aussi n'est-ce pas là ce qui me retient. Ils dirent encore beaucoup d'autres choses que je ne me rappelle pas. Notre hôtesse, buvons un coup, cela rafraîchit la mémoire. Buvons un coup. Après quelques tours d'aller, Madame de la Pommeraye et le marquis remontèrent en voiture. Madame de la Pommeraye dit « Comme cela me vieillit. Quand cela vint à Paris, cela n'était pas plus haut qu'un chou. Vous parlez de la fille de cette dame que nous avons trouvée à la promenade ? Oui, c'est comme dans un jardin où les roses fanées font place aux roses nouvelles. L'avez-vous regardée ? Je n'y ai pas manqué. Comment la trouvez-vous ? C'est la tête d'une vierge de Raphaël sur le corps de sa Galatée. Et puis, une douceur dans la voix, une modestie dans le regard, une bienséance dans le maintien. Une décence dans le propos qui ne m'a frappée dans aucune fille comme dans celle-là. Voilà l'effet de l'éducation, lorsqu'il est préparé par un beau naturel. Le marquis déposa Madame de la Pommeraye à sa porte, et Madame de la Pommeraye n'eut rien de plus pressé que de témoigner à nos deux dévotes combien elle était satisfaite de la manière dont elles avaient rempli leur rôle. Si elles continuent comme elles ont débuté, monsieur le marquis des Arcis, fussiez-vous le diable, vous ne vous en tirerez pas. Je voudrais bien savoir quel est leur projet. Moi, j'en serais bien fâchée, cela gâterait tout. De ce jour, le marquis devint plus assidu chez Madame de la Pommeraye, qui s'en aperçut sans lui en demander la raison. Elle ne lui parlait jamais la première des deux dévotes. Elle attendait qu'il entamât ce texte, ce que le marquis faisait toujours d'impatience et avec une indifférence mal simulée. « Avez-vous vu vos amis ?»« Non. »« Savez-vous que cela n'est pas trop bien ?» Vous êtes riches, elles sont dans le malaise, et vous ne les invitez pas même à manger quelquefois. Je me croyais un peu mieux connue de monsieur le marquis. L'amour autrefois me prêtait des vertus. Aujourd'hui, l'amitié me prête des défauts. Je les ai invitées 10 fois, sans avoir pu les obtenir une. Elles refusent de venir chez moi par des idées singulières, et quand je les visite, il faut que je laisse mon carrosse à l'entrée de la rue et que j'aille en déshabillée, sans rouge et sans diamant. Il ne faut pas trop s'étonner de leur circonspection. Un faux rapport suffirait pour aliéner l'esprit d'un certain nombre de personnes bienfaisantes et les priver de leur secours. Marquis, le bien apparemment coûte beaucoup à faire. Surtout aux dévots, puisque le plus léger prétexte suffit pour les en dispenser, si l'on savait que j'y prends intérêt, bientôt on dirait « Madame de la Pommeraye les protège, elles n'ont besoin de rien ». Et voilà les charités supprimées. Les charités ? Oui, monsieur, les charités. Vous les connaissez, elles en sont aux charités? Encore une fois, marquis, je vois bien que vous ne m'aimez plus et qu'une partie de votre estime s'en est allée avec votre tendresse. Et qui est-ce qui vous a dit que, si ces femmes étaient dans le besoin des aumônes de la paroisse, c'était de ma faute? Pardon, madame, mille pardons, j'ai tort, mais quelle raison de se refuser à la bienveillance d'une amie. Ah, marquis, nous sommes bien loin, nous autres gens du monde, de connaître les délicatesses scrupuleuses des âmes timorées. Elles ne croient pas pouvoir accepter les secours de toute personne indistinctement. C'est nous ôter le meilleur moyen d'expier nos folles dissipations. Point du tout. Je suppose, par exemple, que monsieur le marquis des Arcis fut touché de compassion pour elle. Que ne fait-il passer ses secours par des mains plus dignes et moins sûres? Cela se peut. Dites-moi, si je leur envoyais une vingtaine de louis, croyez-vous qu'elles les refuseraient? J'en suis sûre, et ce refus vous semblerait déplacé dans une mère qui a un enfant charmant. Savez-vous que j'ai été tentée de les aller voir? Je le crois. Marquis, marquis, prenez garde à vous. Voilà un mouvement de compassion bien subi et bien suspect. Quoi qu'il en soit, m'aurait-elle reçu? Non, certes, avec l'éclat de votre voiture, de vos habits, de vos gens et les charmes de la jeune personne, il n'en fallait pas davantage pour apprêter au caquet des voisins, des voisines et les perdre. Vous me chagrinez, car certes, ce n'était pas mon dessein. Il faut donc renoncer à les secourir et à les voir. Je le crois. Mais si je leur faisais passer mes secours par votre moyen, je ne crois pas ces secours-là assez purs pour m'en charger.
Voilà qui est cruel.
Oui, cruel, c'est le mot.
Quelle vision, marquise, vous vous moquez, une jeune fille que je n'ai jamais vue qu'une fois.
Mais du petit nombre de celles qu'on n'oublie pas quand on les a vues.
Il est vrai que ces figures-là vous suivent.
Marquis, prenez garde à vous, vous vous préparez des chagrins. Et j'aime mieux avoir à vous en garantir que d'avoir à vous en consoler. N'allez pas confondre celle-ci avec celle que vous avez connue. Cela ne se ressemble pas. On ne les tente pas, on ne les séduit pas, on n'en approche pas. Elles n'écoutent pas, on n'en vient pas à bout. Après cette conversation, le marquis se rappela tout à coup qu'il avait une affaire pressée. Il se leva brusquement et sortit soucieux. Pendant un assez long intervalle de temps, le marquis ne passa presque pas un jour sans voir madame de la Pommeraye. Mais il arrivait, il s'asseyait, il gardait le silence. Madame de la Pommeraye parlait seule. Le marquis, au bout d'un quart d'heure, se levait et s'en allait. Il fit ensuite une éclipse de près d'un mois, après laquelle il reparut. Mais triste, mais mélancolique, mais défait. La marquise, en le voyant, lui dit: comme vous voilà fait! D'où sortez-vous? Est-ce que vous avez passé tout ce temps en petite maison?
Ma foi, à peu près. De désespoir, je me suis précipitée dans un libertinage affreux.
Comment? De désespoir?
Oui, de désespoir.
Après ce mot, il se mit à se promener en long et en large sans mot dire. Il allait aux fenêtres, il regardait le ciel, il s'arrêtait devant madame de la Pommeraye, il allait à la porte, il appelait ses gens à qui il n'avait rien à dire. Il les renvoyait, il rentrait, il revenait à madame de la Pommeraye qui travaillait sans l'apercevoir. Il voulait parler, il n'osait. Enfin, madame de la Pommeraye en eut pitié et lui dit: qu'avez-vous? On est un mois sans vous voir, vous reparaissez avec un visage de déterré et vous rôdez comme une âme en peine.
Je n'y puis plus tenir. Il faut que je vous dise tout. J'ai été vivement frappée de la fille de votre ami. J'ai tout, mais tout fait pour l'oublier. Et plus j'ai fait, plus je m'en suis souvenue. Cette créature angélique m'obsède. Rendez-moi un service important.
Quel ?
Il faut absolument que je la revoie et que je vous en ai l'obligation. J'ai mis mes grisons en campagne. Toute leur venue, toute leur allée est de chez elles à l'église et de l'église chez elles. 10 fois je me suis présentée à pied sur leur chemin. Elles ne m'ont seulement pas aperçue. Je me suis plantée sur leur porte inutilement. Elles m'ont d'abord rendu libertin comme un sapajou, puis dévot comme un ange. Je n'ai pas manqué la messe une fois depuis 15 jours. Ah, mon ami, quelle figure, qu'elle est belle!
Madame de la Pommeraye savait tout cela, c'est-à-dire, répondit-elle au marquis, qu'après avoir tout mis en œuvre pour guérir, vous n'avez rien omis pour devenir fou, et que c'est le dernier parti qui vous a réussi?
Et réussi, je ne saurais vous exprimer à quel point. N'aurez-vous pas compassion de moi, et ne vous devrais-je pas le bonheur de la revoir?
La chose est difficile, et je m'en occuperai, mais à une condition. C'est que vous laisserez ces infortunés en repos et que vous cesserez de les tourmenter. Je ne vous salerai point qu'elles m'ont écrit de votre persécution avec amertume, et voilà leur lettre. La lettre qu'on donnait à lire au marquis avait été concertée entre elles. C'était la dénon-fille qui paraissait l'avoir écrite par ordre de sa mère, et l'on y avait mis d'honnête, de doux, de touchant, d'élégance et d'esprit, tout ce qui pouvait renverser la tête du marquis. Aussi en accompagnait-il chaque mot d'une exclamation. Pas une phrase qu'il ne relut. Il pleurait de joie. Il disait à madame de la Pommeraye : Convenez donc, madame, qu'on n'écrit pas mieux que cela. J'en conviens. Et qu'à chaque ligne, on se sent pénétré d'admiration et de respect pour des femmes de ce caractère. Cela devrait être. Je vous tiendrai ma parole, mais songez, je vous en supplie, à ne pas manquer à la vôtre. En vérité, marquis, je suis aussi folle que vous. Il faut que vous ayez conservé un terrible empire sur moi. Cela m'effraie. Quand la verrai-je? Je n'en sais rien. Il faut s'occuper premièrement du moyen d'arranger la chose et d'éviter tout soupçon. Elles ne peuvent ignorer vos vues. Voyez la couleur que ma complaisance aurait à leurs yeux si elles s'imaginaient que j'agis de concert avec vous. Mais, marquis, entre nous, qu'ai-je besoin de cet embarras-là? Que m'importe que vous aimiez, que vous n'aimiez pas, que vous extravaguiez? Démêlez votre fusée vous-même. Le rôle que vous me faites faire est aussi trop singulier. Mon ami, si vous m'abandonnez, je suis perdue. Je ne vous parlerai point de moi, puisque je vous offenserai. Mais je vous conjurerai par ces intéressantes et dignes créatures qui vous sont si chères. Vous me connaissez. Épargnez-leur toutes les folies dont je suis capable. J'irai chez elles. Oui, j'irai, je vous en préviens. Je forcerai leurs portes. J'entrerai malgré elles. Je m'asseyrai. Je ne sais ce que je dirai, ce que je ferai. Car que n'avez-vous point à craindre de l'état violent où je suis? Vous remarquerez, messieurs, dit l'hôtesse, que depuis le commencement de cette aventure jusqu'à ce moment, le marquis des Arcis n'avait pas dit un mot qui ne fût un coup de poignard dirigé au cœur de madame de la Pommeraye. Elle l'étouffait d'indignation et de rage. Aussi répondit-elle au marquis d'une voix tremblante et entrecoupée. « Mais vous avez raison. Ah, si j'avais été aimée comme cela, peut-être que... Passons là-dessus. Ce n'est pas pour vous que j'agirai. Mais je me flatte du moins, monsieur le marquis, que vous me donnerez du temps. Le moins que je pourrai. Ah, notre hôtesse, quel diable de femme! Lucifer n'est pas pire, j'en tremble, et il faut que je boive un coup pour me rassurer. Est-ce que vous me laisserez boire tout seul? Moi, je n'ai pas peur. Madame de la Pommeraye disait, je souffre, mais je ne souffre pas seule. Cruel homme, j'ignore quelle sera la durée de mon tourment, mais j'éterniserai le tien. Elle tint le marquis près d'un mois dans l'attente de l'entrevue qu'elle avait promise, c'est-à-dire qu'elle lui laissa tout le temps de pâtir, de se bien enivrer, et que sous prétexte d'adoucir la longueur du délai, elle lui permit de l'entretenir de sa passion.
Et de la fortifier en en parlant.
Quelle femme, quel diable de femme! Notre hôtesse, ma frayeur redouble. Le marquis venait donc tous les jours causer avec madame de la Pommeraye, qui achevait de l'irriter, de l'endurcir et de le perdre par les discours les plus artificieux. Il s'informait de la patrie, de la naissance, de l'éducation, de la fortune et du désastre de ses femmes. Il y revenait sans cesse et ne se croyait jamais assez instruit et touché. La marquise lui faisait remarquer le progrès de ses sentiments et lui en familiarisait le terme, sous prétexte de lui en inspirer de l'effroi. « Marquis !» lui disait-elle. « Prenez-y garde, cela vous mènera loin. Il pourrait arriver un jour que mon amitié, dont vous faites un étrange abus, ne m'excusa ni à mes yeux ni aux vôtres. Ce n'est pas que tous les jours on ne fasse de plus grandes folies. Marquis, je crains fort que vous n'obteniez cette fille qu'à des conditions qui, jusqu'à présent, n'ont pas été de votre goût. » Lorsque madame de la Pommeraye crut le marquis bien préparé pour le succès de son dessein, elle arrangea avec les deux femmes qu'elles viendraient dîner chez elles, et avec le marquis que pour leur donner le change, il les surprendrait en habit de campagne, ce qui fut exécuté. On en était au second service lorsqu'on annonça le marquis. Le marquis, madame de la Pommeraye et les deux dénons jouèrent supérieurement l'embarras. « Madame, dit-il à madame de la Pommeraye, J'arrive de ma terre. Il est trop tard pour aller chez moi où l'on ne m'attend que ce soir, et je me suis flattée que vous ne me refuseriez pas à dîner. » Et tout en parlant, il avait pris une chaise et s'était mis à table. On avait disposé le couvert de manière qu'il se trouvât à côté de la mère et en face de la fille. Il remercia d'un clin d'œil madame de la Pommeraye de cette attention délicate. Après le trouble du premier instant, nos deux dévotes se rassurèrent. On causa, on fut même gai. Le marquis fut de la plus grande attention pour la mère et de la politesse la plus réservée pour la fille. C'était un amusement secret bien plaisant pour ces trois femmes que le scrupule du marquis à ne rien dire, à ne se rien permettre qui pût les effaroucher. Elles eurent l'inhumanité de le faire parler dévotion pendant 3 heures de suite, et madame de la Pommeraye lui disait « Vos discours font merveilleusement l'éloge de vos parents. Les premières leçons qu'on en reçoit ne s'effacent jamais. Vous entendez toutes les subtilités de l'amour divin, comme si vous n'aviez été qu'à Saint-François de Sales pour toute nourriture. N'auriez-vous pas été un peu quiétiste ? » « Je ne m'en souviens plus.